Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'atelier des médias.
Ces journalistes, vous êtes avec eux. Vous êtes arabisés. Vous êtes dans l'islamisme. Pareil. Vous êtes tous des PD. Les journalistes, vous êtes tous des PD.
Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. PD. Ah, ça m'a rajeuni.
Les médias se déchaînent pour tenter de nous atteindre de leurs flèches venimeuses. Le but ne sera pas de commenter avec neutralité et déontologie, mais de dénigrer, de caricaturer, parce qu'ils ne savent faire que cela dès que j'ouvre la bouche.
Le véritable contre-pouvoir, ce n'est plus la presse. Ce n'est pas la presse possédée par M. Drahi, grand ami de M. Macron. Ce n'est pas la presse possédée par M. Berger, autre grand ami de M. Macron. Ce n'est pas cela. Le véritable contre-pouvoir aujourd'hui, c'est Internet. Ce sont les réseaux sociaux. C'est vous, en somme. Vous qui pouvez librement vous exprimer, trouver toutes les informations, même celles qui dérangent le système. C'est là que vous trouverez le véritable contre-pouvoir, la véritable indépendance.
Le Front National propose à ses électeurs un miroir de victimisation. Vous, électeurs, qui vous sentez victime du système, regardez bien, nous aussi. Nous poursuivons cette semaine notre exploration des relations mouvementées entre le Front National, premier parti d'extrême droite en France, et les médias d'information. Dans l'émission précédente, nous vous avons emmené en terre frontiste pour rencontrer les professionnels de la presse locale qui couvrent des communes dirigées par le Front National depuis 2014. Cette semaine, nous changeons de focale et vous proposons de prendre du recul et de la distance. Nous allons interroger aujourd'hui le parti dans son ensemble et lister l'histoire de son image et de sa relation à la presse. Cette émission est signée Mélissa Barra pour l'Atelier des médias. Mélissa qui s'est entretenue avec Arnaud Mercier, professeur d'information et communication à l'Université Paris 2 et spécialiste du discours politique.
Le Front National est un parti qui est né il y a déjà très longtemps, en 1972, créé par Jean-Marie Le Pen, avec l'idée de fédérer toutes les différentes tendances de l'extrême droite française, d'où le titre de Front, hein, au sens de rassemblement, et national, puisque évidemment c'était une idéologie nationaliste qui prédominait. Et donc on a toutes les traditions de l'extrême droite française, c'est-à-dire la droite maurrassienne, la droite royaliste, anti-républicaine, la droite vichiste, nostalgique du maréchal Pétain, la droite de l'OAS qui était donc contre l'indépendance de l'Algérie. Enfin bref, tous ces courants ont fédéré. À une époque où le Front National n'était qu'un groupuscule qui faisait 1%, quoi. Et puis, à partir des années 80, notamment à partir des élections municipales partielles à Dreux et à Aulnay-sous-Bois en 83, le Front National a commencé à émerger comme une force politique capable de rassembler 10% d'un électorat qui s'était durci, qui s'était radicalisé, un électorat de droite, disons, traditionnel. Et en 84, il y a la vraie émergence du Front National, puisque aux européennes, il fait 11% des voix, et donc c'est un peu le choc dans la société française. Et en fait, à partir de là, le Front National est devenu un parti de plus en plus en expansion, capable de rassembler 10-15% des voix sans aucun problème, de façon très régulière, sur une base qui était une base, disons, à deux thématiques, les questions d'insécurité et les questions d'immigration. Et Jean-Marie Le Pen a incarné, fondateur du parti, a incarné cette tendance d'une droite très très dure, qui gardait la nostalgie de l'extrême droite traditionnelle, mais qui en même temps offrait un débouché électoral sur le mode « nous sommes les plus fermes sur les questions d'insécurité et les plus fermes sur les questions d'immigration ».
Dans 20 ans, c'est sûr, la France sera une république islamique. Eh bien, mes chers compatriotes, comment ne pas attirer votre attention sur le fait que les étrangers qui viennent dans notre pays y amènent avec eux leurs mœurs, leurs coutumes, leurs croyances, n'adoptent pas les nôtres, et un jour, si nous n'y prenons garde, nous les imposerons comme ils le font au Liban. Regardez ce qui se passe en Israël. Regardez ce qui se passe en Irlande. Est-ce que le monde multiculturel n'est pas un monde dangereux? Nous n'avions pas ces problèmes-là en France. Et ne souhaitons pas les avoir. Moi, en tout cas, je ferai tout ce qui est en mon possible pour que la France reste française et sûre pour chacun d'entre vous.
Ensuite, le Front National a prospéré au point que, à un moment, Jean-Marie Le Pen a été capable, en 2002, donc, d'arriver au second tour de l'élection présidentielle et d'éliminer Lionel Jospin, ce qui était le haut fait d'armes de Jean-Marie Le Pen, puisqu'il a obtenu presque 17% des voix à ce moment-là au premier tour. Et en même temps, c'était la grande limite, puisque au deuxième tour, il a obtenu 18%. C'est-à-dire qu'il y avait un espèce de front vraiment du refus contre Jean-Marie Le Pen, qui incarnait une figure radicale, avec des propos antisémites, des propos racistes, sous forme de blague ou sous forme assumée comme telle. Bon. Et à partir des élections de 2007, on a vu monter en puissance en fait sa fille Marine Le Pen. Et Marine Le Pen a pris la tête du Front National ensuite, et elle s'est livrée à un travail qu'on a appelé traditionnellement de dédiabolisation, c'est-à-dire un vrai changement de vitrine, de façade, sur une partie du fond qui reste le même, mais avec aussi des évolutions dans le fond. Parce que Jean-Marie Le Pen incarnait aussi cette tradition historique française de ce qu'on appelait le poujadisme, du nom de Pierre Poujade, candidat des petits commerçants, des artisans dans les années 50. Et Jean-Marie Le Pen a été élu député sur l'étiquette Poujade à l'époque. Et là, le moteur de ce parti, enfin de ce mouvement politique plus exactement, c'était le rejet de la fiscalité. Et donc Jean-Marie Le Pen avait des accents antifiscalistes, etc. Ce qui fait qu'il était aussi très pro-libéral, très, très favorable, avec une clientèle électorale qui était faite essentiellement d'artisans, de commerçants, de petits artisans, petits entrepreneurs, qui trouvaient qu'ils étaient accablés par la fiscalité, par les tracasseries administratives, tout ce qui empêchait l'esprit d'entreprendre. Donc... il y avait vraiment cette idée que le Front National était clairement, s'adressait clairement dans sa politique économique à un électorat de droite. Et puis, tout a changé avec Marine Le Pen parce qu'elle a fait venir à elle des gens qui étaient sur une autre ligne. Et donc, de ce point de vue, il n'y a pas qu'une dédiabolisation de façade, il y a un vrai changement. Sur le plan de la politique économique, Marine Le Pen a finalement épousé les thèses qui étaient celles, par exemple, d'un Jean-Pierre Chevènement, d'une certaine façon. D'ailleurs, Florian Philippot, qui est le numéro 2 du Front National, est un ancien conseiller de cet ancien homme du parti, venu du Parti Socialiste qui était Jean-Pierre Chevènement. Et donc, ils ont adopté un discours, au contraire, très ouvriériste, consistant à dire que, au contraire, il fallait garder la retraite à 60 ans, qu'il fallait augmenter le SMIC, qu'il fallait interdire les licenciements. Enfin, le contre-pied absolu de la politique libérale que Jean-Marie Le Pen prétendait incarner. En 86, il avait été candidat en se présentant comme le Ronald Reagan français. Donc, cette idée qu'il allait mettre en place une politique vraiment de choc libéral. Et là, Marine Le Pen, du coup... a transformé de ce point de vue la sociologie électorale du Front National, puisqu'elle a su attirer à elle une bonne partie des ouvriers. Et alors, en fonction de la manière dont on voit les choses, on peut se dire que c'est le premier parti ouvrier de France, parce que, effectivement, parmi les partis qui concourent au suffrage, c'est celui qui obtient le meilleur score chez les ouvriers. Et si on voit les choses autrement, on pourrait dire que c'est le deuxième parti de France, parce que le premier parti de France chez les ouvriers, ça reste l'abstention. C'est-à-dire que massivement, ils sont très présents dans les abstentionnistes. Et donc Marine Le Pen propose une véritable rénovation du logiciel économique et social du Front National, ce qui fait qu'elle a mis un peu moins l'accent sur un certain nombre de choses. Et la manière, ce qui est très intéressant, ce qui est très astucieux en termes de rhétorique, d'argumentation, de positionnement politique, c'est qu'elle a trouvé le bon joint, j'allais dire, pour lier les deux traditions, si je puis dire, celle de son père, de l'histoire du Front National, et celle de ce nouveau positionnement économique et social, c'est l'idée de préférence nationale. Parce que c'est une façon de dire le bon traitement social de la question salariale, de la question de la place des ouvriers dans la société, de la lutte contre le chômage, c'est de mettre en place un vrai système d'assistance renforcé en excluant un certain nombre de gens dont on n'estime pas dignes, par exemple parce qu'ils sont étrangers, essentiellement.
La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a prévu qu'il existe des droits différents entre ceux qui sont citoyens et ceux qui ne le sont pas. Quant à la préférence nationale, ce qui va amuser, je le disais tout à l'heure aux téléspectateurs, la préférence nationale, c'est une loi qui a été introduite par M. Salengro, socialiste, en 1932, et aboli en 1982. Alors vous voyez que c'est pas une idéologie d'extrême droite. Voilà, c'était une loi socialiste.
Alors le Front National incarne deux choses. Il incarne ce qu'il a été pendant déjà depuis le début quasiment, depuis son émergence dans les années 80, une force protestataire. C'est un vote exutoire pour une partie des gens qui considèrent que la gauche et la droite de gouvernement ont échoué successivement, qu'il n'y a plus d'espoir, plus d'espérance en un avenir meilleur. On sait par exemple que un des centres de recherche de Sciences Po avait créé un indicateur qui était la confiance en l'avenir. Alors, pensez-vous que votre situation personnelle va s'améliorer, sera la même ou va empirer à l'avenir? Pensez-vous que celle de vos enfants sera la même, va empirer, va s'améliorer? Pensez-vous que celle de la France va s'améliorer, sera la même? Et au moment, par exemple, du traité constitutionnel européen ou du vote pour la présidentielle de Marine Le Pen en 2012, avec ce type d'indicateur, si vous pensez que votre situation va empirer, que celle de vos enfants va empirer, que la France va empirer, alors là, vous avez des 40% de vote en faveur de Marine Le Pen. Donc il incarne cette idée de vote exutoire et de dernière espérance. D'ailleurs, certains le résument en disant « on les a tous essayés, sauf le Front National ». Donc, après tout, pourquoi ne pas essayer la préférence nationale, la sortie de l'euro, voire de l'Europe, puisque l'Europe a l'air d'être un facteur de concurrence. Donc ça, c'est la première chose qu'incarne le Front National. Et le Front National incarne une deuxième chose. Il incarne très clairement, même si ses dirigeants s'en défendent, un vote qui est un vote, il faut dire les choses telles qu'elles sont, raciste. C'est-à-dire que, on le sait, toutes les enquêtes d'opinion le montrent, que une majorité d'électeurs du Front National sont extrêmement soucieux de la lutte contre l'immigration, qu'elle soit légale ou pas d'ailleurs, enfin c'est pas le sujet, parce qu'ils ont le sentiment que ça introduit une concurrence économique indue, mais aussi une concurrence culturelle, au sens de ça fait rentrer en France des gens qui vont subvertir ce qu'est la France, l'identité française, qui peut se décliner de différentes façons. Ça va de la couleur de peau, en passant par la langue, en passant bien sûr par la religion. Et il est évident que le Front National fait son miel depuis déjà maintenant un bon moment de l'islamophobie qui est présente dans notre société. Et d'une certaine façon, le Front National est le parfait écho de ce que souhaite Daesh. Daesh qui cherche, à travers ses attentats et autres, à provoquer une sorte de conflit de civilisation, etc. Donc de radicalisation des gens qui sont attaqués. Et du coup, qui viendrait valider a posteriori le discours que Daesh tient, qui est de dire: mais frères musulmans des pays d'Europe, vous êtes en fait martyrisés, vous ne vous en rendez pas compte, vous êtes dominés, vous êtes dans des sociétés hostiles et il y a une façade démocratique qui vous laisse croire que... Mais bon. Donc le Front National incarne très clairement ces deux choses-là et ça fait, par exemple, ça peut faire écho dans le sud de la France, justement à la forte identification du vote Front National avec un vote pied-noir, le vote des rapatriés d'Algérie, des gens qui n'ont jamais digéré l'abandon de l'Algérie et qui ont toujours, disons-le clairement, une haine, puisqu'il y a des plaies qui n'ont pas été cicatrisées vis-à-vis des Algériens qui les ont poussés dehors, puisque dans le cadre de la décolonisation, il y a eu abandon de l'Algérie comme un département français au profit d'une indépendance.
Et Arnaud Mercier, vous qui, depuis un moment, vous observez le discours politique, comment vous décririez la posture, la position, l'attitude de ce mouvement politique, du Front National, face à ce qu'on appelle la presse traditionnelle?
Alors ça, c'est très simple à analyser parce que c'est très constant et ça n'a pas changé que ce soit Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen, puisqu'il y a eu transformation, j'ai évoqué tout à l'heure, et là, les choses sont très constantes. Le Front National est créé donc en 72 en rassemblant des tas de groupuscules de l'extrême droite française qui n'avaient pas pignon sur rue, qui n'avaient pas accès aux médias, faut être très clair, parce qu'ils étaient représentatifs de pas grand-chose finalement, et qu'ils étaient en contradiction totale avec les valeurs démocratiques. Donc, et comme on était en plus à l'époque encore pour la télévision et la radio sous contrôle de l'ORTF, donc un contrôle d'État, ils n'avaient pas accès aux médias. Dès l'origine, donc, le Front National a entonné un discours de dénonciation de l'ostracisation dont il était victime par les médias. Et Jean-Marie Le Pen a continué ça de façon extrêmement régulière, en estimant qu'il n'était pas assez présent dans les années 80, qu'il n'était pas assez, qu'il n'était pas bien traité, au sens où quand les médias l'invitaient ou parlaient de lui, c'était plutôt pour en dire du mal ou pour le malmener par des questions, ce qui, il faut bien le reconnaître, n'était pas totalement faux, hein, puisque effectivement, les postures assez peu démocratique, on va dire, du Front National, tendance Jean-Marie Le Pen, n'amenait pas les journalistes à être particulièrement bienveillants à son égard. Mais le paradoxe, quand même, il faut le noter, c'est que dès les années 80, notamment en 88, quand Jean-Marie Le Pen a obtenu 14% des voix aux élections présidentielles, alors que personne ne s'y attendait vraiment à ce point-là, on a fait le procès des médias en disant vous lui donnez trop de place, vous en parlez trop. Par exemple, François-Henri de Virieux, pour des raisons d'audience tout à fait compréhensibles, puisque Jean-Marie Le Pen faisait toujours des records d'audience, l'a invité entre 86 et 88 trois fois à la mission politique phare de l'époque, qui était L'Heure de Vérité sur Antenne 2. Et on lui a beaucoup reproché d'avoir offert comme ça complaisamment une tribune à Jean-Marie Le Pen, etc., etc. Et la réponse, évidemment, c'était de dire, écoutez, nous, on ne crée pas le phénomène Le Pen. Hein, on voit bien qu'il émerge, qu'il a, il a eu de 11% des voix aux européennes en 84. Il redépasse la barre des 10% aux législatives de 86 et obtient une trentaine de députés, puisque c'était un scrutin proportionnel. Voilà, donc il représente quelque chose. Nous ne pouvons pas l'ostraciser. C'était ça la réponse aussi des journalistes de l'époque. Et donc ce discours a perduré constamment, qui est un discours de victimisation. Et ce discours de victimisation, il est stratégique. Il est très utile au Front National. Parce que le Front National propose à ses électeurs un miroir de victimisation. Vous, électeurs, qui vous sentez victime du système économique, du système politique, vous qui êtes broyé par le capitalisme, etc. Enfin, on peut filer la métaphore comme ça ad libitum. Eh bien, regardez bien, nous aussi, nous, membres du Front National, nous sommes des victimes. Donc nous sommes faits pour nous identifier mutuellement l'un à l'autre et se comprendre, puisque vous êtes des victimes du système économique et social. Nous sommes des victimes du système politique et médiatique. Donc ce discours de victimisation, c'est vraiment la volonté d'offrir un miroir d'identification aux possibles électeurs sur le mode « nous sommes tous victimes ». Et puis, il y a quand même eu, même si certains ne veulent pas le voir parce que ça les arrange pas politiquement, il y a bien eu des diabolisations de fait dans le discours et dans les jeux de posture des leaders du Front National, Marine Le Pen et Florian Philippot en tête. Et donc ces gens-là sont devenus à la fois incontournables à être invités dans les médias, puisque le Front National est encore plus représentatif d'une tendance de la société française qu'avant. Donc ça, c'est l'argument démocratique habituel pour les médias. Et en même temps, en plus, ils sont devenus plus acceptables et même plus policés, si vous voulez, parce que quand on invitait Jean-Marie Le Pen dans les médias, on savait jamais trop ce qu'il allait dire, alors que eux, ils font pas ce genre de débord. Et ce qui est très troublant, pour en terminer là-dessus, c'est que aujourd'hui encore, le Front National ne cesse d'essayer de jouer cette victimisation. Oui, les médias nous maltraitent, etc. Très honnêtement, quand vous êtes un citoyen français qui regardait activement la télévision, les chaînes d'information continue, etc., vous ne pouvez pas comprendre ce qu'ils vous disent, parce que quand vous voyez que Florian Philippot est invité quasiment tous les jours à la télé à s'exprimer d'une façon ou d'une autre sur plateau ou à travers une émission, là, vous avez du mal à croire qu'ils puissent encore se présenter comme des victimes.
Lorsque Marine Le Pen a succédé à son père à la présidence du Front National en 2011, elle a lancé une opération de métamorphose de son parti. Elle lui a offert d'abord un visage plus social, vous l'avez entendu, puis elle a tenté de gommer sa radicalité idéologique. Cette stratégie de dédiabolisation, comme on l'appelle communément, passe notamment par une ouverture nouvelle aux médias. Les figures du parti se sont montrées plus présentes sur les plateaux, plus accessibles au micro et aux sollicitations des journalistes. Elle-même plus nombreuses. En parallèle, le parti de Marine Le Pen n'a pas cessé d'entonner un discours ouvertement anti-média. Pour notre invité Arnaud Mercier, ce double jeu n'est pas sans conséquences pour le Front National. Restez avec nous si vous souhaitez en savoir plus. Atelier des médias, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes cette semaine avec Arnaud Mercier, professeur en information et communication à l'Université Paris 2. Nous parlons avec lui des rapports entre le Front National et les médias. Dans la première partie de l'émission, le chercheur est revenu sur les mutations idéologiques qu'a connues le FN lorsque Marine Le Pen a succédé à son père. Une chose en tout cas n'a pas évolué depuis la naissance du FN, c'est la manière dont il envisage le rôle et le travail des journalistes. Arnaud Mercier répond aux questions de Mélissa Barra.
RFI.
Quel autre reproche a tendance à formuler le Front National face aux médias ? On parle aussi pas mal de médias biaisés, de médias militants. C'est bien ça ?
Oui, bien sûr. Le Front National considère que, pour faire simple, tous les journalistes sont de gauche. Et donc il y a un biais, de gauchiste. Alors il faut resituer ça dans une perspective plus large. Le Front National n'est pas le seul à tenir ce discours. Une partie de la droite française le tient depuis un bon moment, notamment Nicolas Sarkozy, et on l'a vu lors de cette campagne présidentielle, François Fillon, qui était a priori exonéré de ce type de propos, s'est jeté à corps perdu sur ça parce que il y a trouvé une sorte de porte de salut pour essayer de sortir de ces turpitudes coupables de l'affaire politico-judiciaire en disant que c'était un complot des médias, etc. Donc, le Front National n'est pas le seul, et ça correspond à une tendance qui travaille nos sociétés déjà depuis un moment et qui a commencé aux États-Unis. Il faut resituer vraiment ça dans une perspective plus historique, si vous voulez. En 1972, Richard Nixon est réélu président des États-Unis et va sortir progressivement un scandale comme quoi il aurait utilisé les services secrets pour poser des micros dans les locaux de son adversaire dans le QG de campagne qui est situé dans un immeuble qui s'appelle le Watergate.
Et du Parti démocrate.
Du Parti démocrate. Et donc ça va donner le fameux scandale, resté maintenant presque mythique, du Watergate. Et donc on le sait maintenant puisque ça a été dit, c'est le numéro 2 du FBI qui a été gorge profonde, puisque c'était le terme, qui a été l'indicateur des deux journalistes du Washington Post, et donc qui était choqué par ces méthodes et qui a fini par distiller un certain nombre d'informations. Et ces informations, de plus en plus précises, ont mis en porte-à-faux Richard Nixon, qui a nié pendant des mois tout ça, et puis les preuves s'accumulant, il a été obligé de reconnaître les choses, et les démocrates ont mis en place une procédure d'impeachment, c'est-à-dire de destitution, et qui a obligé, vu la situation, Richard Nixon à démissionner. À partir de là, ça a été un électrochoc dans le camp républicain et chez les conservateurs américains, dans le milieu politique et économique, en se disant « Mais, mon Dieu, la presse a vraiment du pouvoir. » Et donc, ils ont considéré à partir de là que la presse devenait un ennemi politique. Et on a, mais c'est documenté, hein, c'est l'American Enterprise, les think tanks, etc., ont mis de l'argent. On fait des séminaires de réflexion sur comment lutter contre le système médiatique considéré désormais comme un ennemi politique. Et bien, il en est sorti deux choses. L'incitation auprès de ses membres, notamment les riches fortunés, à investir dans les médias, voire à créer ses propres médias, ce qui va arriver à partir des années 80. Et puis, de l'autre côté, il y a eu le financement de tout un tas d'études, alors y compris avec des biais méthodologiques terribles, mais bon, de dénonciation de ce qu'ils ont appelé le « liberal bias », le biais libéral. Alors, libéral, il faut l'entendre au sens américain. Hein.
Orientation de gauche, plutôt.
Oui, c'est ça. Libéral, dans la bouche des conservateurs américains, c'est ce qu'on dirait ici gauchiste. Hein. C'est même pas de gauche, c'est carrément gauchiste. Hein. Donc, il y a eu des tas d'études sur la dénonciation du biais libéral. Donc, on faisait des analyses de contenu. Ah, vous voyez, ils n'ont pas posé les questions de la même manière dans ceci, dans cela. Et ça, c'est un mouvement de fond qui traverse les années 80-90 aux États-Unis et qui a fini par se répandre en Grande-Bretagne, en France, hein, et qui a notamment été très largement repris par Nicolas Sarkozy. Et donc, dans le discours de Nicolas Sarkozy, on trouve beaucoup de choses sur les journalistes, c'est des bobos, ils font partie des élites, de la classe, etc. Et dans le discours du Front National, ça a une traduction très claire, c'est tout un discours qui est très structuré au Front National de la dénonciation de la classe politico-médiatique, avec cette idée que il y a des accointances telles parallèle entre les politiques et les médias, entre les politiques et les journalistes, que tout ça, ça forme une combinaison.
Monsieur Collard, ce sont les journalistes qui n'ont pas pu être accrédités. Comment vous réagissez à ça?
S'ils n'ont pas pu être accrédités, c'est qu'il y a un motif pour qu'ils ne soient pas accrédités.
Lequel?
Que j'ai le droit de ne pas lire un journal, par exemple, et que quand un journal ne veut pas m'inviter pour un débat, je peux avoir le droit de ne pas le recevoir. Et puis une fois pour toutes, les journalistes, vous avez d'immenses droits, mais vous n'avez pas le droit de vous imposer quand on ne veut pas que vous veniez, c'est tout. Je crois que c'est très simple. Il faut aussi que vous appreniez, vous, à vivre en démocratie.
Alors conseil municipal, j'en ai parlé, les établissements publics, surtout si vous n'êtes pas invité, vous y allez, si possible, pourvu qu'il y ait un incident, que le maire dise mais t'as rien à foutre là, si je suis là, et ton monte et la presse arrive. Donc c'est un débat entre le maire et vous. Pourvu qu'il vous bouscule. Voilà, vous tombez. Hein. Pompier, tout le tralala.
Et Arnaud Mercier, qu'est-ce que vous avez retenu de cette période électorale dans la relation entre le Front National et les journalistes?
Je crois que le bilan principal, quand même, c'est pas directement dans la relation entre le Front National et les journalistes, mais c'est dans le Front National et les médias, c'est l'échec, le naufrage de Marine Le Pen lors du débat présidentiel de second tour à la télévision. Et on a bien vu que tous les médias étaient unanimes à saluer quelque chose qui n'allait pas, tant du point de vue de la prestation en elle-même, c'est-à-dire tout le monde a souligné que ça avait été pitoyable, et tout le monde s'en était rendu compte, même sur les réseaux sociaux, dans les militants sympathisants du Front National, ils se plaignaient amèrement le soir même que ce qu'elle était en train de faire était pitoyable et que ça n'allait pas dans son sens.
Et ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes.
Je parlais de
ils
votre
sont
partie.
Sur les réseaux sociaux.
Mais aussi dans le sentiment assez unanimement partagé qu'il y avait une sorte de malaise par rapport à la prestation qu'elle avait faite. Et du coup, on a vu beaucoup de commentateurs dans la presse finalement avoir une certaine forme, j'allais dire, de soulagement, parce que plusieurs ont souligné, dit bon ben voilà, on était un peu interdit par le Front National à cause de cette thématique de la dédiabolisation, et puis là, les masques tombent. Marine Le Pen, elle s'est révélée telle qu'en elle-même, et plus personne ne pourra nous dire qu'elle s'est dédiabolisée, et on a vu un certain nombre d'éditorialistes, de journalistes dire, bah, finalement, pour ceux qui croyaient à la dédiabolisation, à la normalisation possible de la relation avec le Front National, bah, vous voyez, le vernis a craqué, les masques sont tombés, et nous nous retrouvons face à un Front National qu'on peut légitimement, de nouveau, ne plus considérer comme un parti tout à fait comme les autres. L'autre point qui me paraît intéressant, qu'on a commencé à voir poindre juste après la présidentielle, c'est qu'il commence à y avoir des dissensions assez fortes en matière stratégique au niveau du Front National. On voit bien qu'il y a les anti-Philippot qui étaient jusqu'à présent assez marginalisés, qui avaient du mal à s'exprimer, qui sont en train de reprendre du poil de la bête, qui ont visiblement besoin des médias comme chambre d'écho pour faire savoir publiquement l'opposition qu'ils ont en interne. Et là, on voit quand même que certains utilisent les médias pour faire passer des messages à destination de l'appareil du parti. Et parmi ceux qui étaient extrêmement critiques vis-à-vis des médias, je crois que là, on en a vu quelques-uns qui sont extrêmement contents d'avoir l'oreille des journalistes pour pouvoir relayer finalement leur discours. Ce que font bien volontiers d'ailleurs un certain nombre de journalistes et de médias, puisque si ça va dans le sens de jeter un peu d'huile sur le feu à l'intérieur du Front National, je pense que pour certains journalistes, ils ne sont pas contre, loin s'en faut. Bon, autre point, on a vu que pendant la campagne présidentielle, il y a eu un certain nombre de frictions à nouveau entre le Front National et les journalistes. On a bien vu comment, dans certains meetings, il y avait des mots d'ordre plus ou moins spontanés, y compris des journalistes en t'encule, enfin des choses tout à fait sympathiques et dont on peut penser qu'ils n'étaient pas une invitation à collaborer ouvertement avec les journalistes.
Et pour précision, d'ailleurs, une trentaine de rédactions françaises ont signé une pétition pour protester contre ce choix du Front National, cette position d'écarter tout simplement les journalistes, certains journalistes, de leurs événements, de leurs meetings.
Oui, en plus, il y a eu ces images particulièrement spectaculaires des débarquements de journalistes manu militari, les gardes du corps arrivent et puis les exfiltrent de façon plus ou moins brutale. On l'a vu avec journalistes du Petit Journal ou des choses comme ça. Ça se traduit par des refus parfois d'accréditation pour certains médias. Ça se traduit bien sûr par le refus de répondre à certaines invitations des médias. Ça se traduit aussi par des sifflets et plus de la part du public. Et Jean-Marie Le Pen déjà faisait ça. Hein. Jean-Marie Le Pen, par exemple, avait au moment de la campagne de 88, dans ses meetings, fait siffler un certain nombre de journalistes.
Qu'il
nommait justement, et c'était très intéressant parce que en fait c'était de l'antisémitisme rampant. Hein. Donc je vous demande de siffler Monsieur Yvan Levailly, Monsieur Jean-Pierre Elkabbar. Voilà. Et donc, qui traduisait son appartenance à la communauté juive. Alors, chez Marine Le Pen, elle fait très attention à l'antisémitisme, mais en revanche, on voit que il y a des références plutôt, au contraire, à l'islamisme, à l'islam, etc.
Et on reproche beaucoup aux journalistes aussi d'être un peu islamo-gauchistes.
En tout cas, d'avoir des affinités, de ne pas critiquer assez, d'être complaisant, ce genre de choses. Donc, on va les assimiler. Et là, c'est pour ça que je dis que c'est assez grave, parce que on les assimile à des figures de l'ennemi. C'est-à-dire que c'est pas seulement qu'on désigne les journalistes comme des ennemis, suite du Watergate, c'est qu'on va encore plus loin. C'est-à-dire qu'il y a des vrais ennemis, des islamistes qui nous font la guerre à travers des coups, des attentats, etc. Et on va essayer d'instiller des liens possibles entre des supposés, j'irais pas jusqu'à dire affinités, mais enfin complaisance, entre ces journalistes bobos, etc. Et donc, on les désigne non seulement comme des ennemis, mais même comme proches d'autres ennemis qui, eux, sont des vrais ennemis, si je puis dire.
Je la sens dans vos yeux, dans vos âmes et vos bleus. La mélancolie française. Le château Margaux, l'Algérie, Brigitte Bardot.
Atelier des médias, nous sommes toujours avec Arnaud Mercier, spécialiste de communication politique. Nous parlons des relations du Front National avec les médias et la presse en particulier.
Je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du retour pendant ces périodes, qui est une période tendue, hein, une élection, et notamment une élection présidentielle, le retour au vieux démon du côté du Front National, de défiance vis-à-vis des médias. Mais une fois encore, il faut aussi préciser que, d'une part, la défiance vis-à-vis des journalistes au moment des campagnes électorales, ça s'est quand même largement répandu. On l'avait vu même avec quelqu'un comme Ségolène Royal, qui passait son temps en 2007 à parler de démocratie participative, etc. Il y avait certains événements qui n'étaient pas ouverts aux journalistes ou autres, parce qu'on trouvait que les journalistes, c'est toujours des gars de sauce, pour ne pas dire des fouilles merdes. Mais là, ça a pris des proportions très importantes, y compris d'ailleurs dans l'électorat de droite, puisqu'on a vu des mouvements de détestation hein, s'exprimer très ouvertement dans les meetings et autres, d'un point de vue de l'électorat, ce qui est souvent âgé et conservateur, fidèle soutien de François Fillon, et qui dénonçait le rôle pervers, pernicieux, selon eux, des journalistes qui osaient mettre à l'antenne les affaires plus ou moins louches faites par François Fillon pour enrichir sa famille, on va dire. Comme il y a eu aussi des éléments d'affaires avec le Front National, le discours de défiance vis-à-vis des journalistes et des médias qui s'était un tout petit peu calmé en a repris de plus belle sur le mode, vous essayez de nous influencer. On peut ajouter aussi, dernier point, toujours sur cette relation aux médias, vu du point de vue de l'électorat de droite et de l'électorat du Front National, parce que là, ça a été largement partagé, cette idée que les médias, décidément, il y a bien un manichéisme des médias et un deux poids deux mesures, puisque les médias sont censément roulés pour Macron. Alors, d'une certaine façon, il s'est détendu pendant la législative, parce que cette campagne des législatives, en fait, le soufflet est retombé. Il y a vraiment cette idée que, les législatives sont perçues, et d'ailleurs à juste titre, vu les résultats, comme une espèce de troisième tour de la présidentielle, mais d'un tour de confirmation, hein, et non pas de revanche, comme l'espérait la droite, Jean-Luc Mélenchon, le Front National. Et puis, comme le Front National est très très loin d'avoir obtenu les scores qu'il espérait, et donc le nombre de députés auxquels il aspirait, donc c'est une vraie défaite de ce point de vue. C'est un vrai contraste avec sa dynamique présidentielle, où elle avait obtenu plusieurs centaines de milliers de voix de plus que la précédente élection. Donc il y a un vrai reflux de ce point de vue des législatives, non seulement par rapport à la présidentielle, mais même par rapport à la législative précédente. Donc là aussi, ça va dans le sens pour les médias d'une relative banalisation du coup du Front National, perçu comme un parti qui finalement a peu de chances de conquérir beaucoup de territoires, donc il n'y a pas de lieu de se crisper dessus, et que, mon Dieu, si les doigts d'une main suffisent pour compter le nombre de députés à la fin, il n'y a pas lieu non plus d'en faire des tartines, si j'ose dire.
Vous évoquiez tout à l'heure les vieux démons du Front National, les vieux démons qui ont rejailli en quelque sorte pendant la campagne présidentielle. On pense surtout à ces propos de Marine Le Pen au micro de RTL, d'ailleurs des propos qui rappellent le dérapage de son père 30 ans plus tôt au même micro de RTL, c'était au sujet des chambres à gaz. Là, Marine Le Pen, elle a affirmé qu'elle considérait que la France n'avait pas de responsabilité au moment de la rafle du Veldiv. Donc la rafle du Veldiv qui a quand même valu à 13 000 juifs d'être déportés. Comment vous avez perçu ces propos à elle ?
Alors d'abord, le système de défense de Marine Le Pen, qui dans un premier temps a continué à vouloir simplement faire de l'explication de texte, a rapidement viré à « vous nous poussez à la faute par vos questionnements ». Enfin, il y a eu quelque chose après comme système de défense qui consistait à dire que c'était bien la faute des journalistes qui étaient pernicieux quoi, dans la façon d'interroger. Mais sur le fond du fond, moi, je pense que cette histoire est intéressante à deux titres. D'abord, il faut quand même rappeler que ce n'est pas qu'un rappel du dérapage de son père. C'est en fait l'inscription du discours du Front National dans une tradition historique qui était celle voulue par le général de Gaulle à la Libération, qu'avait repris à son compte François Mitterrand, avec des effets de génération qui étaient particulièrement évidents, qui consistait au lendemain de la guerre à essayer de faire croire que précisément la vraie France, la France légitime, elle était à Londres, et donc que la France n'était pas responsable parce que la France était à Londres. Il a fallu notamment le travail très très ardu et copieux d'historiens américains, et c'est pas un hasard s'il était américain, donc Robert Paxton, avec son célèbre livre notamment La France de Vichy, pour que tout d'un coup, la France soit obligée de regarder en face son passé et de s'apercevoir qu'effectivement, ceux qui avaient organisé la rave du Vélib', notamment les fonctionnaires, policiers, juges et autres, tout ce que vous voulez, employés de la SNCF et que sais-je encore, tous ces braves gens, ils étaient par exemple fonctionnaires de l'État français avant le régime de Vichy, pendant et pour un certain nombre après. Et on doit au président Chirac d'avoir regardé en face avec ce célèbre discours du Vel'd'Hiv', où justement il a été le premier à reconnaître la responsabilité de l'État français. Et au sens le plus historique et technique du terme, c'est malheureusement tout à fait exact. Alors, je crois que du coup, quand on a resitué ça comme ça, Marine Le Pen, à mon avis, a fait deux choses à travers cette déclaration. La première, je pense qu'elle l'a faite comme un clin d'œil aux vieux gaullistes historiques qui pouvaient encore croire à cette mythologie sur un mode un peu électoraliste, quoi. C'est-à-dire la logique du clin d'œil à ceux qui veulent croire encore à cette mythologie gaulliste historique. Et puis, en même temps, je pense qu'elle a dit ce qu'elle pense sur le tréfonds d'elle-même, parce qu'effectivement, elle a été élevée dans cette culture-là par son père. Mais, moyennant quoi, je pense qu'il y a eu une erreur majeure de communication et d'appréciation de l'état de la société française, parce que l'effet de remplacement des générations est tel qu'aujourd'hui, une majorité de Français peut regarder froidement son histoire, parce que ce n'est pas la sienne personnelle, c'est celle éventuellement de ses parents, et surtout encore plus pour beaucoup de leurs grands-parents maintenant. Je crois que là, en l'occurrence, il ne s'agit même pas d'une repentance, c'est tout simplement de regarder son histoire en face. Voilà, bon, bah oui, c'est bien le prolongement de l'État français de la Troisième République qui a produit ça, et voilà. Donc là, je pense que c'est une erreur de calcul politique.
Et tous ces constats que vous dressez à partir de l'élection présidentielle, des élections législative, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Est-ce qu'on peut parler d'une ère qui s'achève et d'une autre qui commence?
Je pense que cette période électorale va laisser des traces, en effet, à deux titres. D'abord, à cause du naufrage qui a été le débat, de la personnalité que ça a révélé de Marine Le Pen, qui a suscité un énorme rejet, y compris d'ailleurs dans son propre camp. Et donc, je pense que Marine Le Pen s'est rediabolisée toute seule. Et donc, donne plus de coups d'effranche à tout un tas de journalistes aujourd'hui et demain pour parler d'elle en des termes moins amènes qu'ils ne pouvaient le faire, en retenant peut-être un peu leurs bras parfois, en se disant oh, c'est bon, bah, après tout, oui, c'est quand même, après tout, c'est une femme politique comme les autres. Là, je crois que ça, c'est quand même quelque chose qui va durablement marquer les esprits. Et à titre très simple, je pense que, y compris d'ailleurs pas seulement pour les médias, mais pour les hommes politiques, je pense qu'un homme politique, on va dire entre guillemets normal, aurait même des billes grâce à ce débat pour refuser de débattre sur un plateau télé avec Marine Le Pen en disant si c'est pour faire la même chose qu'eux, vous voyez, je pense qu'elle a donné des verges vraiment pour se faire battre. L'autre enseignement que j'en tire pour l'avenir, puisqu'il ne s'agit pas de conclure, mais il s'agit d'ouvrir plutôt, à mon avis, des perspectives, c'est que c'est cette séquence électorale, même si au premier tour, vu le score obtenu par Marine Le Pen, on peut penser que c'est une consécration et une victoire, se relève une victoire à la Pyrrhus par rapport au deuxième tour, où ils sont très loin du score qu'ils espéraient obtenir, où on a vu que juste après le débat, elle a perdu un certain nombre de pourcentages de voix et que même Macron a gagné des voix en plus, donc il y a eu un sursaut contre elle. Eh bien, je pense qu'on peut en conclure que l'avenir du Front National avec les médias est délicat, en ce sens que ce qui se dessine comme le plus probable, c'est une période de forte agitation à l'intérieur du Front National, de tensions internes, de refondation ou que sais-je encore, à laquelle les médias vont jouer un rôle peut-être du point de vue du Front National perçu comme trouble, en sens où, comme on l'a vu par exemple lors de la querelle de l'UMP entre Jean-François Copé et François Fillon pour la présidence, avec des forts soupçons vérifiés depuis de trucage des résultats, d'ailleurs avec tout le problème que chacun des deux avait plus ou moins bourré les urnes à certains endroits, enfin bref, que tout le monde n'était pas clair, dans lequel finalement les médias jouent un rôle trouble, puisqu'ils sont à la fois une tribune recherchée par certains pour régler leurs comptes publiquement, et en même temps, à partir du moment où tout le monde joue ce jeu-là, ça se retourne contre eux, c'est une espèce de retour du boomerang qui devient une arme de destruction collective de sa crédibilité, de son image, etc. Donc, je pense que la relation du Front National aux médias, elle est durablement altérée du point de vue de la personnalité de Marine Le Pen. Et je pense que tout dépendra pour l'avenir de la manière dont ils vont gérer leur querelle interne. Est-ce qu'ils vont déballer leur linge sale en famille de façon extrêmement vive et brutale? Ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'ils vont essayer de jouer ça un peu à huis clos et avec à fleur et mouchetée, voilà, on le verra. Et là, les médias auront un rôle à jouer.
C'était Arnaud Mercier, spécialiste de la communication politique, au micro de Mélissa Barra. Merci à eux deux. Cette émission était réalisée par Simon Decreuse, produite par votre serviteur Ziad Malouf. En coulisses, Constance Léon, Marie-Stéphanie Servos, Camille Deloche et notre stagiaire Thérèse Thibon. Salut à toutes et à tous. La semaine prochaine, nous commençons une courte série qui vous présentera une enquête exclusive de l'Atelier des médias sur les violences subies par les journalistes en France dans la couverture de manifestations publiques. Petit avant-goût.
On arrive vraiment sur la rocade, puis on entend les sirènes derrière, les sirènes de véhicules de police. Donc là, on voit le groupe de manifestants qui est rabattu dans le talus pour être sorti de la rocade. Et donc moi, je continue à courir. Et ça, bah, voilà, là, on voit le policier qui me dépasse. Donc c'est fou, je suis en train de courir. Et ben après, il n'y a plus d'image parce que ben, je me retrouve par terre.
Vincent.
En fait, ce policier-là m'a dépassé.
Bravo. Qu'est-ce qui t'est arrivé?
Il a mis un coup de matraque dans la gueule.
S'est retourné et m'a donné un coup de matraque directement dans la tête.
On en a marre. Je prends la presse ici, la reine. On en a marre.
C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure.